De nouveau, bonsoir Charles Fitterman.
Eh bien, rebonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons parlé du monde paysan, nous avons entendu Marie-Claude Vaillant-Couturier et à l'instant une émission sur le Galilée de Brecht par Antoine Vitez. Nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture, au programme Métal Europe, Heures et malheurs du travail avec Christophe Dejour, Amin Malouf et Nelson Mandela. Avant de poursuivre, nous pouvons peut-être évoquer quelqu'un que vous considérez comme un de vos maîtres, Waldeck Rocher. Vous avez dit, après avoir été son secrétaire, « J'ai toujours rêvé depuis qu'on mette au pouvoir des hommes qui n'aiment pas le pouvoir ».
Oui, en effet. Disons que si on contemple la scène politique actuelle, c'est pas précisément le cas, mais c'est dommage. Je crois que ça fait partie, ça devrait faire partie des nouvelles façons de faire de la politique, mais enfin, on peut rêver, c'est fait pour ça, cette nuit. Alors Waldeck Rocher, oui, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué, un de mes maîtres, comme vous l'avez dit. Alors, effectivement, il y avait sa modestie, son pragmatisme, son sens du concret. Il avait les pieds dans la glaise, comme on dit. Il se racontait pas d'histoire. Et puis, en même temps, il y avait un esprit d'ouverture. C'est un homme qui... Bon, compte tenu des conditions de l'époque, mais qui a essayé de faire bouger le Parti communiste, qui a innové dans un certain nombre de domaines, il cherchait tout le temps, qui a essayé de comprendre. Il a été confronté avec le mouvement de mai 68, alors je sais bien qu'on peut faire des reproches au Parti communiste à ce moment-là, mais je l'ai vu faire, il a cherché à comprendre, il en a sorti d'ailleurs un texte, un certain nombre de décisions... Et puis il y a eu la condamnation de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. C'était pas évident, hein, pour le. C'était une première, c'est le cas. De... Bon, et ça a été très dur parce qu'il s'est heurté au dogmatique, à la femme de Maurice Thorez. Ça a été très violent. Mais il a tenu bon. Il était en même temps en capacité d'écouter, modestie, mais fermeté absolue dès lors qu'il avait décidé quelque chose. Et puis c'est un homme avec la modestie sans doute, la gentillesse. C'est un homme très humble, très humain, très très proche. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'étais son secrétaire personnel, et j'ai beaucoup aimé travailler à ses côtés pendant 5 ans à peu près. Je l'ai regardé faire. Et, il m'a appris énormément de choses.
J'allais vous demander, qu'avez-vous appris auprès de lui ?
Bah, j'ai appris, justement, bon, moi j'étais encore relativement jeune, et je, par exemple, on parlait d'un cas de quelqu'un qui, disons, qui avait pris une position qu'on n'approuvait pas, et je lui ai dit, oh, c'est l'idéologie qui le guide. Et il m'avait répondu, tu sais, on trouve toujours des raisons idéologiques pour justifier ce qu'on a envie de faire. Et ça m'avait beaucoup surpris de la part du secrétaire général du Parti communiste, tout de même l'idéologie, c'était pas rien. Eh ben non, lui, il m'a dit une autre fois, tu sais, les grands hommes, oui, mais si on déplace de 1% par son action la flèche de l'histoire, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, des choses comme ça qui se sont répétées et qui m'ont vraiment apporté, qui m'ont blindé, je dirais, en quelque sorte, armé pour la suite.
Charles Fitterman, votre nuit rêvée continue avec Metal Europe Pera. En 2003, Sonia Kronlund, pour son émission Les Pieds sur Terre, s'intéressait au sort des 830 salariés de Metal Europe laissés sur le carreau. Elle allait à la rencontre des ouvriers de Noyelles-Godault et recueillit leurs paroles. Lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit que vous vouliez parler de la condition ouvrière, de la dignité et de la solidarité.
Ben, j'ai surtout voulu parler, parce qu'on en parle de la condition ouvrière, mais souvent au passé, et pour à la fois déposer des fleurs et verser une larme, et puis on passe à autre chose. Or, moi j'ai surtout voulu en parler à propos de la question du travail. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et que c'est une question centrale, une question politique, central aujourd'hui. Alors, ces deux extraits sonores, là, se rapportent à des choses différentes. Il y a une entreprise qui ferme et les gens qui sont désorientés, c'est une déchirure. On verra la manière dont ils souffrent, ces gens-là. Ils se demandent ce qu'ils vont devenir. En plus, c'est dans le Nord. Et puis, l'autre extrait concerne des gens qui sont au travail, mais qui souffrent par les conditions dans lesquelles ils sont amenés à travailler.
Oui, Charles Fitterman, vous mêlez dans vos propos le programme suivant de votre nuit rêvée qui s'appelle « Heures et malheurs du travail » avec Christophe Dejour pour les chemins de la connaissance en 1987. Une émission durant laquelle le psychiatre et psychanalyste parlait de son sujet de recherche, la souffrance au travail, au micro de Francesca Piolo.
Parce que je les rapproche, parce que je crois qu'il y a une liaison étroite, parce que les uns sont privés de travail, certes, mais ça réagit sur les autres qui sont au travail et qui sont amenés à accepter des conditions qui, logiquement, devraient être inacceptables. Alors, si j'ai voulu en parler, c'est vrai que une nuit révèle travail, bon, peut-être que c'est un peu incongru, mais tout de même, j'ai voulu en parler pour deux raisons. La première, c'est que ces deux extraits sonores se rapportent à des situations qui ne sont pas isolées. C'est pas comme ça quelques-unes. Des entreprises qui ferment alors qu'elles sont rentables, alors qu'elles ont des commandes, alors qu'elles rapportent des bénéfices. Mais j'en connais en ce moment qui sont en train de fermer. Et il en est pas question. Encore une fois, les médias n'en parlent pas. Ils meurent en silence. Et c'est vrai que ça n'est pas acceptable. D'autre part, pour l'autre sujet, alors des gens qui souffrent au travail, là non plus, même eux n'en parlent pas parce que il y a la chape, le poids du chômage et ça conduit à accepter beaucoup de choses. Mais il y a aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises et en particulier dans les grandes, des méthodes de management qui relèvent de la manipulation des êtres humains. Toutes les techniques sont utilisées pour isoler les gens, pour leur imposer des objectifs qui sont de plus en plus inatteignables, pour les culpabiliser comme si s'ils n'y arrivent pas, c'était de leur faute. Ça conduit à des suicides. Et les gens souffrent parce qu'ils perdent le sens même de leur travail. D'ailleurs, il y a un morcellement de ce qu'ils font. Ils ne savent plus à quoi ça sert. Ouais. Dans ces conditions, eh bien, il y a une souffrance, un mal-être qui est considérable.
Pour en revenir à l'émission Metal Europe Paiera, on peut parler de mépris de la part du groupe Glencore à l'égard des salariés de Metal Europe, salariés qui apprennent leur licenciement par la télévision ou par mail.
Mais vous savez,
les patrons voyous, ça, disait Jacques Chirac.
C'est le paradoxe de ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'Union soviétique. D'un côté, c'était inévitable et après tout, il fallait en sortir. Mais d'un autre côté, il y avait une espèce d'équilibre et un aiguillon au derrière du monde capitaliste. Et cet aiguillon a disparu. Ben, ils considèrent qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un cynisme du monde patronal, enfin des grands patrons et de la finance, qui est invraisemblable aujourd'hui. Il n'y en a jamais assez. Et quand vous voyez, même pour le travail du dimanche, le secrétaire général de la CFDT, pourtant la CFDT, on peut pas dire qu'elle casse la baraque, hein, c'est un syndicat raisonnable. Eh bien, elle ne peut pas signer parce que ce que demande le MEDEF est inacceptable. On voit où on en est. Et il n'y a pas de fin. Vous pouvez leur donner 20 milliards, il en faut 30, il en faut 40, il en faut 50. Il s'en sortira pas, notre cher président de la République, avec ça. C'est pas ce langage-là qu'il faut leur parler.
Dans l'émission de Sonia Kronlund, nous entendrons Franck, un ouvrier de 27 ans, dire qu'il est encore jeune, qu'il n'aura pas de mal à retrouver du travail. Grâce au journal Le Monde, on avait de ses nouvelles en 2013, et pour lui non plus, ça n'a pas été aussi simple. Il a connu une longue période de chômage, une profonde dépression et enchaîné plusieurs emplois dans des entreprises qui ont fait faillite. Même s'il a fini par trouver un emploi stable, il dit avoir appris à être méfiant et garder un œil sur le marché du travail. La leçon qu'il en tire, je cite, « Avant, on changeait de boîte tous les 5 ans. Maintenant, c'est de métier qu'il faut changer tous les 5 ans. »
Oui, mais Bien sûr, pourquoi pas changer de métier si les technologies évoluent, si les besoins évoluent, on peut changer de métier. Mais il devrait y avoir une continuité dans la vie d'un travailleur. Il devrait avoir le temps de s'instruire, après de se former tout au long de la vie, chaque fois que c'est nécessaire, voire d'avoir des périodes d'interruption, pourquoi pas, des congés sabbatiques. On peut imaginer une autre vie que celle qu'on mène. Et s'il faut changer d'emploi, eh bien, les gens refusent pas de s'adapter. Ils refusent même pas de se déplacer aujourd'hui. Donc, il faut assurer leurs moyens de vivre suffisamment. Vous savez, dans les pays scandinaves, ils avaient instauré une compensation. Pendant les périodes de rupture et de formation, ils payaient 90% du salaire. Voilà, on l'a jamais fait en France. Certes, changer de métier, changer d'entreprise, pourquoi pas, mais c'est pas ça qu'on est en train de vivre. 3,5 millions chômeurs, 5,5 millions, si on tient compte de toutes les catégories. C'est une chape de plomb qui pèse sur toute la société. Et pas seulement en termes matériels, mais en termes psychologiques, en termes moraux. C'est un pourrissement, c'est un cancer.
Nous entendrons les ouvriers affirmer leur fierté d'être métallos. Vous êtes vous-même fier d'avoir été ouvrier jusqu'à vos 30 ans, mais cependant vous refusez d'idéaliser la condition ouvrière, de mythifier la classe ouvrière.
Oh, ben parce que, oui, bien sûr,
ne serait-ce que les conditions de travail.
Peut-être il y a eu au Parti communiste une tendance à mettre, vous savez, un rond sur la tête, là, comme on représente dans les images pieuses, à la classe ouvrière. Bon, les ouvriers, ils sont comme tout le monde, ils sont ce qu'ils sont, ils vivent, il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y en a des gentils, il y en a des méchants.
Ben, vous dites, je n'ai jamais regretté mon adhésion délibérée à la classe ouvrière, elle fut pour moi une formidable école, l'une des sources de ma formation d'homme.
Absolument, absolument, parce que j'étais militant syndical dans une grande entreprise, enfin une filiale d'une grande entreprise, il y avait 2200 salariés. Eh bien, j'y ai appris d'abord le sens du travail, le sens de l'effort, l'amitié, la solidarité, pas seulement d'ailleurs dans la lutte, mais dans les difficultés de la vie. C'était une chaleur humaine, c'était une fraternité, enfin, et c'est vrai que c'est extrêmement... Alors, comme militant syndical, évidemment, j'ai appris aussi beaucoup. Vous savez, à 25 ans, quand on monte sur une plateforme de camions, et puis que vous avez 1000 gars devant vous, hommes et femmes d'ailleurs, et qui attendent de vous que vous leur disiez, bon, comment ils voient, on va faire, quel mouvement on conduit, à quoi on va aboutir, c'est pas du blablabla, c'est pas des discours qu'ils attendent, c'est du concret, et ils veulent qu'au bout, il y ait quelque chose. Moi, je me souviens, je transpirais, c'était une responsabilité écrasante de conduire ça. Mais ça apprend à prendre ses responsabilités, à pas se raconter d'histoires, à écouter les gens. Et c'est vrai que j'ai gardé de cette époque aussi un souvenir extrêmement... Je raconte encore quelques fois des gens avec qui j'ai travaillé à Saint-Étienne. J'en ai gardé un souvenir formidable. Et au fond... S'il y a des reproches à faire au grand patronat et à la finance, c'est d'avoir cherché à casser tout ça, à isoler les gens, à les fractionner, à les individualiser, et finalement à appauvrir cette société. Et finalement à aboutir au contraire de ce qu'ils cherchent, parce que l'efficacité économique, la productivité du travail, mais elle repose d'abord... sur la motivation du travailleur, sur sa capacité d'initiative à faire face aux aléas du travail. Christophe Dujour explique ça très bien aussi. Et pas seulement à lui imposer, c'est pas des robots. Moi, j'ai toujours été frappé par cet épisode qui s'est produit dans l'espace où une station qui devait un satellite qui devait s'accrocher à un autre, et il y a eu un incident, et tous les automatismes pourtant qui sont particulièrement sophistiqué, n'arrivait pas à résoudre l'incident. Il a fallu que le cosmonaute sorte de sa capsule et aille bricoler une porte qui coinçait avec un tournevis. Je sais pas comment il s'est débrouillé, mais en tout cas, il a réparé. Voilà. Eh bien, l'industrie, l'activité économique, c'est ça. Et ça, c'est l'avenir, c'est la place de l'humain dans tout cela, qui est déterminant et qu'il faudra non seulement préserver, mais aujourd'hui promouvoir.
Une des idées principales de Christophe Dejour, c'est la distinction entre travail prescrit et travail réel. Il dit qu'il est impossible de faire le travail tel qu'il est prescrit par les organisateurs. Si on applique uniquement les consignes, ça ne marche pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté dans votre vie d'ouvrier ?
Mais absolument. Moi, j'étais électricien, je faisais du dépannage sur des grosses machines-outils. Vous savez, vous aviez des armoires avec des milliers de fils et il fallait dépanner dans le plus court délai possible parce qu'évidemment, une machine arrêtée, ça coûtait cher. Eh bien, il y a ce que j'avais appris à l'école, ce que j'avais appris par l'expérience et puis aussi à l'intuition. Il y a, vous savez, quelquefois, je forçais sur la panne pour qu'il y ait un arc qui se crée et qu'on sente quelque chose, qu'il y ait une fumée qu'on sente. Alors, c'était pas très orthodoxe comme méthode. Mais ça m'est arrivé parce que je trouvais où était la panne. Et après, je réparais. Bon, ben ça, il n'y a aucun livre qui vous l'apprendra, aucun professeur vous le dira, ça. Mais quand vous êtes sur le tas et en face du problème, ben, et que vous avez quand même un savoir-faire, eh bien...
Il faut inventer.
Il faut inventer sans cesse.
Et s'adapter.
Il faut s'adapter. Vous savez, moi j'ai toujours appris que l'art de la mécanique, c'est le jeu. Oui. S'il n'y a pas de jeu, ça coince. S'il y en a trop, ça déraille. Eh bien, le jeu, c'est un art. Voilà. Et travailler que ce soit dans n'importe quel domaine, je sais bien, ça peut être de l'artisanat, mais c'est quand même de l'art. C'est l'imagination, c'est la créativité humaine. Et les méthodes qui sont appliquées aujourd'hui tuent tout cela et finiront par tuer le système, j'en suis convaincu.
L'émission date de 1987. Dejour faisait le constat qu'il était de plus en plus difficile d'inventer, d'adapter, d'échapper au rôle de simple exécutant. Que la marge de liberté et de manœuvre était de plus en plus réduite. Pensez-vous qu'on ait progressé depuis 30 ans sur ce terrain ?
Ben, malheureusement, je crains que non seulement on n'a pas progressé, mais ça s'est étendu, ces méthodes se sont étendues. Alors, je ne vais pas être pessimiste, parce que c'est vrai qu'il y a quelques entreprises, il y a quelques dirigeants d'entreprises, quelques secteurs où on commence à réfléchir à ces questions. Mais alors, pour tomber dans un autre travers... dont parle Daniel Linhart dans une interview qu'elle a donnée d'ailleurs à France Culture. C'est une émission de France Culture. Et Daniel Linhart, elle évoque un retour au fordisme. C'est-à-dire que au fond, ce que demandent les grands entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas seulement le travail physique direct, mais c'est toute la personnalité de l'individu qui doit se dépenser dans son travail, qui doit être au service de ce que on lui demande. Alors, on imagine maintenant d'offrir mon épouse qui travaille dans une grande entreprise, elle a fait du canoë-kayak, mais on donne des cours de massage, des coachs, comme on dit aujourd'hui.
C'est une manière de garder le contrôle en même temps.
Mais c'est pas une manière de garder, mais de renforcer. Un contrôle total de l'individu, de sa vie privée. Parce qu'il faut qu'il soit en bonne condition pour empoigner les manettes ou bien travailler avec son crayon, son stylo, à réfléchir à ce qu'il a à faire. C'est une exploitation pas seulement de la force de travail, comme disait Marx, mais de toute l'intelligence, de la sensibilité humaine, du système nerveux, en quelque sorte. On en est là. Alors, on me dirait, qu'est-ce qui vaut le mieux ? Bon, avoir une crèche dans l'entreprise et avoir des cours de massage plutôt que rien du tout, moi, je veux bien. Mais c'est pas ça qui crée des êtres libres. Vous savez, moi, j'ai un mot d'ordre, c'est libérer le travail. C'est ça qu'il faut, et c'est ça que je conseille aux forces de gauche comme mot d'ordre, parce que malheureusement elles se sont laissées prendre par Nicolas Sarkozy. Alors que évidemment libérer le travail, ça veut pas dire travailler plus comme il l'avait imaginé. Ça veut dire travailler tous, travailler mieux et travailler autrement. Mais il y a besoin d'une véritable libération du travail et du travailleur.
Bonheur et travail, êtes-vous sûr que ce soit deux mots que l'on puisse associer ?
Ah, c'est une grande question, vous savez, le bonheur. Moi, je sais bien que, comme communiste, j'ai rêvé du bonheur pour
la
société.
C'est une idée pour les cons, disait le général de Gaulle.
Oui. Et puis, on n'apporte pas le bonheur aux hommes comme ça. Le bonheur, c'est souvent une affaire individuelle. C'est des étincelles de bonheur dans une nuit. Donc, moi, je me garde de promettre le bonheur aujourd'hui. Et chacun, je le construis à sa façon et faisant attention que l'État ne se mêle pas de cette question. Donc, non, mais c'est simplement un monde plus libre, plus autonome, où l'individu puisse s'épanouir, construire sa vie. Alors, je me rêve pas. Il y aura toujours une part de contraintes dans le travail, parce qu'il faut bien... C'est la vieille malédiction divine, enfin, que les croyants, les auteurs des religions ont transformé. Mais c'est vrai qu'il faut bien produire ce que dont on a besoin pour manger, pour se loger, pour se déplacer, pour s'instruire, etc. Donc ça, il faudra toujours le faire. Mais ça peut se faire dans d'autres conditions et avec une plus large palette de choix selon les goûts et les penchants des individus, et avec une marge de vie qui reste et qui permette aussi d'avoir d'assouvir d'autres passions, d'avoir d'autres activités. C'est une vie, il faut penser à une vie plus universelle, plus variée. Voilà, je crois pas que ce soit, certes, c'est de l'utopie, mais je crois que c'est une utopie soutenable, comme on dirait aujourd'hui.
Charles Fitterman, votre nuit rêvée se poursuit avec la voix d'Amin Maalouf, que nous entendrons dans Les blessures du monde arabe, le troisième volet de la série D'Avoix nues, que lui consacrait Catherine Pont-Humbert en 2003. Pourquoi Amin Maalouf?
Alors, j'avais fait ce choix avant les événements dramatiques qui ont eu lieu au mois de novembre. Et j'avais fait ce choix parce que je pensais qu'il fallait absolument refuser cette thèse de la confrontation, du choc entre les civilisations, c'est-à-dire entre ce qu'on peut appeler la civilisation européenne, parce que les États-Unis, l'Australie, c'est des extensions de l'Europe dans l'histoire, en quelque sorte, et puis la civilisation arabe. Il faut absolument ne pas tomber dans ce panneau et s'inscrire au contraire dans une perspective de dialogue, de compréhension, de coopération. Alors, je veux dire, aujourd'hui, bien sûr, les victimes méritent qu'on partage autant que faire se peut leur douleur, qu'on soit à leur côté. C'est vrai qu'il faut absolument tout faire pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes absurde et barbare, et aller jusqu'aux sources. C'est vrai qu'il faut effacer de la carte ce fameux Daesh et tous ces prolongements. Tout cela est nécessaire, indispensable, j'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais dans le même temps, je suis convaincu que la répression ne suffira pas. Parce que avant, on a eu Ben Laden. Bon, Ben Laden, il est mort. Et puis voilà, maintenant il y a Daesh. Et si on ne dissipe pas les brouillards qu'il y a dans les têtes d'un certain nombre, chez nous, d'un certain nombre de jeunes notamment, si on n'assainit pas le terrain sur lequel poussent ces fleurs vénéneuses, eh bien elles repousseront tout le temps, elles renaîtront. Alors, il y a besoin de connaissance de ce monde, de ces mondes, de leurs relations. Il y a besoin de réflexion attentive. Et j'ai pensé qu'il n'y avait pas plus qualifié qu'Amin Maalouf pour nous aider à réfléchir et à comprendre ce qui est en train de se passer. D'abord parce qu'il est d'origine libanaise, parce qu'il est arabe et parce qu'il est chrétien, ce qui est quand même une extraordinaire combinaison. Et je crois qu'en l'écoutant, eh bien, les auditeurs se rendront compte de la qualité de ce que dit cet homme-là.
Naître, c'est venir au monde, pas dans tel ou tel pays, peut-on lire dans Les Désorientés d'Amin Maalouf. Vous-même seriez volontiers tenté, dites-vous, par une suppression des frontières et pour une fraternité universelle. Ne sommes-nous pas là en pleine utopie?
Je dirais que c'est une utopie, oui, Mais je vous l'ai dit, il y a des utopies soutenables. Et je crois que, évidemment, je n'envisage pas ça demain matin, mais je crois que c'est un objectif qu'il faut se donner, parce que il y a aujourd'hui, déjà aujourd'hui, des problèmes qui concernent l'humanité tout entière. L'environnement, le climat, c'est l'humanité qui est concernée. Et puis, la bonne utilisation des ressources naturelles, l'avenir des humains et de la façon dont ils vivent, tout ça, c'est devenu dès à présent des questions universelles. Et il faudra bien, à un moment donné, il faut... actuellement, on a une mondialisation de l'économie, on a une mondialisation de la finance, des moyens de communication, mais on n'a pas de mondialisation du droit du travail, de la solidarité des travailleurs, du politique, du droit à tout court. Et c'est vers cette mondialisation-là qu'il faudra aller. Il faut faire à l'échelle du monde ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays depuis un siècle et demi, avec l'établissement d'un droit du travail, avec la pacification, si je peux dire, en tout cas l'établissement de rapports plus normaux, plus justes entre les différentes parties prenantes. Alors, une utopie, pourquoi pas, mais je crois que c'est une utopie soutenable. Cela dit, j'ajouterais que ça n'efface pas les nations, ça n'efface pas les pays. C'est pas tout le monde dans le même moule et marchant ou pas. Ça peut arriver, ça, remarquez, si on fait pas attention. Mais c'est pas du tout ça auquel je fais allusion. Ça veut dire qu'il y a, c'est vrai, il y a des nations qui se sont constituées de façon historique, qui ont des caractéristiques, et c'est vrai de la nation française, et qui peuvent perdurer parce que c'est la diversité qui fait la richesse et pas l'uniformité. C'est ça la nation française. On parle d'identité française. Vous savez, on parle de quand on commence à parler d'identité, c'est qu'on ne sait plus où elle est, l'identité. D'accord. Mais l'identité française, c'est pas des colloques qu'il faut faire. Il faut lui donner du rayonnement, il faut lui donner de la force. C'est comme la République. Il faut qu'elle s'affirme. Et à partir de là, il y aura de l'attrait. Il y aura, les gens y adhéreront de bon cœur. Si je suis devenu, si j'ai souhaité être français, non pas israélien, en 1946-47, quand j'étais jeune à l'époque, mais c'est parce que j'ai apprécié ce pays, parce que j'ai connu cette famille paysanne, et parce que j'ai commencé à lire, et que je me suis intéressé à toutes ces valeurs qui ont fait la grandeur de l'histoire française. Il y a eu des mauvais comtés aussi, mais c'est ça qui m'a retenu. Et aujourd'hui, c'est pareil, il faut être capable de faire rayonner la France. Et pour ça, affirme, non seulement affirmer dans les mots ces valeurs, mais aussi l'affirmer par des actes concrets. L'accent est mis sur le sécuritaire, sur la protection, les gens ont peur. Hein, et avec ça, ben, on va à la catastrophe.
Charles Fitterman, vous avez choisi de clore votre nuit rêvée avec Nelson Mandela, Le rêve d'une nation. En 2012, Fabrice d'Almeida consacrait une grande traversée à Nelson Mandela. Nous en écouterons l'avant-dernier volet intitulé « Du criminel au héros international ». Vous teniez à ce qu'une personnalité politique figure au programme de votre nuit, et la seule qui finalement vous semblait envisageable, c'était Mandela. Pourquoi ?
Parce que je le considère comme le plus grand homme politique de la fin du XXe siècle et un homme dont l'action devrait inspirer aujourd'hui tous les politiques pour le XXIe siècle. C'est une très très grande figure. J'avoue que j'ai pas trouvé l'équivalent en France. J'aurais bien aimé, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Alors j'ai pris Mandela et j'ai pris... Il y avait plusieurs choix possibles, mais l'extrait sonore, justement, permet de réfléchir sur sa façon de faire de la politique. Et je la distinguerai avec deux traits. Le premier, c'est la rigueur personnelle. C'est un homme qui a eu une attitude morale irréprochable. C'est un homme modeste. Il a pris sa retraite, on voulait lui construire un palais, et il s'est fait construire une petite maison dans son village natal. Mais c'est pas de l'affectation chez lui, il est comme ça, cet homme-là. Et c'est de ça qu'on a besoin à la direction de tous les pays. Et puis, c'est pas un homme qui avait un goût excessif du pouvoir. Il fallait bien qu'il y aille à un moment donné pour faire ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas recherché absolument ni à y aller, ni à s'y accrocher d'ailleurs. Donc, avec la rigueur personnelle, le deuxième trait que je retiens, c'est la rigueur politique alliée à une volonté ténace, obstinée de rassembler les gens, de trouver les chemins qui permettent de répondre aux besoins de l'ensemble de la société, en évitant autant que faire se peut les violences, en recherchant les chemins de la liberté pour tous, ce qu'il proclamait, de la paix pour tous. Et son objectif de sa vie, c'était d'abattre l'apartheid. Et il s'y est tenu à travers tous les méandres de son action. Il n'a jamais abandonné, il n'a jamais tourné le dos à cet objectif. Et dans le même temps, il s'est efforcé de frayer des chemins qui permettent de faire l'économie des hommes, des femmes, du massacre, des biens matériels, en cherchant les voies de la négociation, de l'accord possible par tous les moyens. Autrement dit, la lutte qu'il a jamais sous-estimé, parce que les rapports de force, il faut les construire, et il faut pas avoir d'illusions, mais pas pour la revanche sociale, pas dans un esprit partisan étroit pour servir les siens, se servir, voire pour servir une classe même, mais pour servir la société tout entière, parce que finalement, il faut que ce soit la société tout entière qui gagne. Et cette obstination à suivre ce chemin-là, qui lui a permis d'arriver au résultat auquel il est arrivé, qui est assez extraordinaire. Et je crois que tous les politiques aujourd'hui devraient réfléchir à cet ensemble de démarches. Je répète, pas seulement rassembler pour rassembler, parce que si vous rassemblez sur le terrain de l'adversaire en tournant le dos à ce que vous avez promis, c'est pas du rassemblement, c'est de la débandade. Mais rassembler, certes, en cherchant avec l'autre, en cherchant à comprendre, en cherchant les solutions, mais en même temps, en ayant un souci de l'objectif, mais en faisant l'effort nécessaire. Et je crois que c'est ce dont la politique a besoin aujourd'hui. Et c'est vrai dans tous les domaines. Malheureusement, ce sont trop souvent les armes, la violence, la ruse, les mauvais coups qui prédominent. Mais moi, je crois que la politique fait son chemin. Oui, on parlait tout à l'heure du monde arabe même, mais regardez la réaction des gens d'origine arabe, arabo-musulmane dans notre pays, mais elle est la même que celle du reste de la population. Et puis il y a les médias, il y a tout ce qui, l'information qui circule, il y a des rapprochements qui sont en train de se faire. Moi je crois pas que, c'est vrai que ce qui saute aux yeux et ce qu'on écoute malheureusement quand on écoute la radio, sauf France Culture peut-être parce que c'est un peu plus comestible, mais on n'entend que ça, les guerres, les crimes, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui cherchent à se rapprocher. Regardez les révolutions arabes, elles n'ont pas donné ce qu'elles devaient donner, mais ça a été une étape. Et il y a encore des gens qui aspirent. Il y a des rapprochements possibles. Donc c'est la politique qui doit venir à l'ordre du jour comme question dominante. C'est pas l'économie, c'est pas la finance, c'est la politique qui doit commander. Et une politique qui s'inspire de une politique citoyenne qui s'inspire de ce que veulent les gens. Ça veut dire qu'il faut les informer, qu'il faut les faire les associer, les faire participer et les faire choisir même si c'est pas forcément toujours, on tombe pas forcément toujours sur les bons choix, mais comme disait Churchill, la démocratie c'est quand même le moins mauvais des systèmes. Hein. Bon, donc voilà, moi je crois à ça, et c'est pour ça que je regarde de près encore, je relis ce qu'a dit et écrit Mandela et la façon dont il s'est comporté.
Merci Charles Fitterman, nous nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Metal Europe Pera pour Les Pieds sur Terre de Sonia Grandlund en 2003, Les Jours d'ennui, deuxième volet de la série Heures et Malheurs du Travail avec Christophe Dejour pour Les Chemins de la Connaissance par Francesca Piolo en 1987, puis Les Blessures du Monde Arabe, troisième temps de La Voix Nue d'Amin Malouf par Catherine Pont-Imbert en 2003, et pour finir, Du Criminel au Héros International, avant-dernier volet de La Grande Traversée Nelson Mandela, Le Rêve d'une nation, proposé par Fabrice Dalméda en 2012. Charles Fitterman, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.